Bien, bonjour mesdames et messieurs. Nous allons évoquer aujourd'hui le thème des jeux vidéo et plus spécifiquement la problématique suivante, les jeux vidéo, s'y trouver ou s'y perdre. Alors pourquoi cette question ? C'est très simple. Si on regarde un petit peu aujourd'hui la place des jeux vidéo dans toutes les disciplines qui commencent par psy, hein, psychanalyse, psychothérapie, psychiatrie, etc., etc., on voit qu'il y a vraiment deux volets qui semblent quand même assez contradictoires. D'un côté, on a des gens qui soignent des personnes, des jeunes surtout, qui sont soi-disant victimes d'une addiction aux jeux vidéo. Et puis de l'autre côté, on a des thérapeutes qui utilisent les jeux vidéo comme thérapie pour soigner soit des enfants psychotiques, soit des enfants autistes, soit des personnes qui ont des problèmes relationnels. Donc apparemment, on a deux facettes complètement opposées. L'une, le jeu vidéo comme thérapie. L'autre, le jeu vidéo comme problème à soigner. Donc vraiment deux choses qui sont complètement opposées. Alors nous allons commencer par la facette qui est la plus proche de l'opinion publique, hein, on va dire. Beaucoup de gens, d'adultes notamment, s'imaginent qu'un enfant avachi sur son divan qui préfère conduire un bolide à toute vitesse plutôt que de faire une sortie familiale, c'est forcément qu'il est sous addiction, c'est forcément qu'il est sous l'emprise du virtuel. Donc je vais poser la question à mes invités. Nous avons ici Fabrice Collin, qui est auteur, on ne le présente plus, auteur jeunesse, auteur adulte, auteur d'un petit peu tout. Nous avons ici Lionel Davoust, qui est traducteur, qui a aussi dirigé la revue Asphodal pendant un certain temps, et puis qui fait aussi un petit peu d'écriture. Nous avons Christophe Lambert, auteur essentiellement jeunesse, mais qui fait aussi un peu de littérature adulte. Et nous avons Joanne Elliott, qui est surtout connue pour ses uchronies, mais qui a aussi touché un petit peu à tous les domaines de la science-fiction, et pas seulement de la science-fiction, puisque tu as aussi flirté avec le fantastique, la fantaisie et un petit peu tout. Donc, eh bien, je sais pas, commençons par Fabrice. Fabrice, si on pense à ce que veut dire le mot addiction, c'est-à-dire consommation effrénée et immodérée d'un toxique, est-ce que tu penses que le terme peut s'appliquer et qu'on peut parler d'une addiction au virtuel dans les jeux vidéo ?
Ouais, mais je pense qu'on peut parler d'une addiction virtuelle tout court, même pas seulement dans les jeux vidéo d'ailleurs, parce que ça peut se retrouver pour... Il y a des gens qui ont des addictions à Internet, enfin à l'ordinateur en général. Au niveau des jeux en réseau, on arrive maintenant avec des produits qui sont suffisamment élaborés et riches pour qu'effectivement on puisse avoir envie d'y passer de très nombreuses heures et que surtout on ne voit plus le temps passer. Alors moi je suis pas du tout... Bon, moi j'ai des enfants, ils sont trop jeunes pour jouer à ça encore. J'ai pas une vue de première main par rapport à ça, et moi-même j'ai toujours évité en fait de trop jouer. Alors j'ai travaillé dans un magazine de jeux vidéo pendant 5-6 ans, et en fait le fait de voir les choses un petit peu de l'intérieur entre guillemets fait que paradoxalement on a peut-être moins envie de jouer puisqu'on a un peu un œil de professionnel là-dessus. Je pense qu'il y a un âge auquel on est un petit peu fragilisé par rapport à ça. Alors les addictions en tout genre, enfin c'est, il se trouve que le jeu vidéo, il y a ce côté visuel, il y a ce côté dans les jeux en réseau, univers persistant, personnages, quêtes, etc. C'est des choses qui peuvent susciter effectivement l'addiction. Moi, à titre personnel, je joue pas parce que je connais des gens, y compris des gens d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, qui jouent beaucoup et qui, donc le temps qui est imparti au jeu, ils font pas autre chose, quoi. Moi, je suis écrivain entre guillemets à plein temps. Et si je commence à jouer chez moi, voilà, à des jeux quels qu'ils soient, je travaille plus et ça bouffe le temps, et voilà, je m'en sors pas. Mais vraiment, je connais je vais pas citer évidemment, mais des gens qui ont eu des périodes des coups de mou ou des périodes pendant lesquelles ils ont vraiment pas travaillé, où ils ont mis bizarrement 3 ans pour écrire un petit roman de 200 pages, et en fait, voilà, ils ont joué. Donc l'addiction, elle touche pas que les ados, je pense.
Alors Lionel, je crois que tu fais partie des gens qui ont beaucoup joué à une époque.
Bonjour, je m'appelle Lionel et je joue à World of Warcraft. Et ça va. Non, je pense qu'il y a une petite notion qui est un petit peu ambiguë et un peu dans qui me déplaît un peu quand on parle d'addiction, c'est-à-dire que en fait, pour moi, il y a déjà un truc qui est assez difficile à placer, c'est la limite entre l'addiction, c'est la consommation d'un toxique. Est-ce que le jeu est toxique ? C'est déjà un truc qui peut-être reste à démontrer. Mais surtout, où est la limite entre la passion et l'addiction ? Il y a, moi je pense à... Quand on parle d'addiction aux jeux vidéo, moi ça me renvoie un peu au début du Rouge et le Noir, où le pauvre Julien Sorel se voit son bouquin balancé dans le caniveau, parce que tout ça, il n'arrivera jamais à rien faire de sa vie en lisant des bouquins. Alors... Il est vrai que, pour moi, effectivement, le MMORPG, donc le jeu en ligne, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, peut avoir un côté très absorbant, très mangeur de temps pour beaucoup de choses, et c'est un truc dans lequel on peut effectivement passer un temps fou, parce que les mécanismes du jeu sont conçus de manière à vous scotcher à l'écran pour vous faire en sorte que vous payiez bien votre abonnement le mois suivant. Mais à partir de quel moment on passe d'une passion pour... un loisir, que ce soit le deltaplane, la lecture, la danse contemporaine ou le MMORPG, où est-ce qu'il y a une différence entre cette passion et le moment où ça devient véritablement pathologique. Pathologique parce qu'effectivement, il y a des gens qui, effectivement, comme tu disais, passent un temps fou là-dessus, père de femme, enfant, foyer, travail, etc.
Oui, mais il y a des gens qui le perdent aussi en collectionnant les timbres.
Voilà. Donc, est-ce que c'est véritablement le virtuel, le jeu vidéo qui est responsable de ça, ou est-ce que ça aurait pas pu arriver à ces gens-là, il y a un siècle, effectivement, en collectionnant des timbres, ou en collectionnant des gens Saul Partre. Je suis pas convaincu que le virtuel soit l'élément fondamental de va dire, la passion qu'on peut passer au truc. Il y a des côtés très positifs, je vais faire court, il y a des côtés très positifs dans le MMORPG parce qu'il y a un aspect social véritable, il y a des véritables liens sociaux qui se tissent entre des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Donc j'appartiens à une guilde par exemple, l'aîné est retraité à 75 ans, les plus jeunes ont 14 ans. Et il y a des rencontres entre des gens qui se retrouvent sur un terrain commun, et il y a des liens véritablement forts qui se tissent entre des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Et ça, c'est un aspect positif. Maintenant, effectivement, c'est très preneur de temps et c'est très motivant, mais pour moi, ce n'est pas le virtuel qui est en cause.
Alors, si on compare justement ces MMORPG dont on parlait tout à l'heure, donc pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont les jeux de rôle massivement multijoueurs qui se passent sur Internet et qui ont comme particularité que quand vous vous déconnectez, le monde continue à avancer. Donc c'est vrai que c'est très addictif parce que autant sur un jeu vidéo classique, quand vous arrêtez, le jeu s'arrête avec vous. Donc vous ne perdez pas de temps de jeu, vous n'avez perdu du temps que dans le jeu. Oui, c'est pas le seul mécanisme, mais c'est un des principaux. Autant dans le MMORPG, quand vous vous déconnectez, bah, ça avance sans vous. Donc ça vous incite à vous reconnecter, évidemment, très rapidement. Alors si on compare ça, Johan, tu nous disais que toi, tu jouais, mais il y a 20 ans, 25 ans. Si voilà. On compare ça avec ping-pong, etc., qu'est-ce que ça a changé ?
Non, ça, j'étais tout petit, j'étais très addict à ping et à pong, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Non, alors il faut que je commence par expliquer qu'en toute honnêteté, un, je ne connais rien aux jeux vidéo. Deux, je n'aime pas, ça ne m'intéresse absolument pas.
Tu seras notre candidat.
Mais alors, il est vrai que mon expérience s'est limitée aux premières années de la décennie 1980, donc ce qui ne rajeunira personne. Moi le premier, et donc on jouait, c'était l'époque où les jeux s'enregistraient sur des cassettes audio et mettaient 3 heures à se charger pour avoir des trucs assez fabuleux et des missions qui duraient à peu près 1h30, enfin non, c'était extraordinaire. Mais cela dit, en y repensant plus sérieusement, donc c'était moi au début de mes années collège, sans parler d'addiction parce que le mot est plutôt fort, mais enfin j'y passais largement plus de temps qu'à faire mes devoirs scolaires, ce qui a pu d'ailleurs me jouer des tours. Donc malgré tout, avec ce qui était le summum de la technologie de l'époque, et sans même parler alors là de réseau, c'était inimaginable, c'était vraiment de la science-fiction, sans même parler de ce que l'univers pouvait se développer par lui-même, ça je veux dire, oui, même dans les films de SF on n'imaginait pas. Ça suffisait, pourtant cette technologie ultra limitée aujourd'hui, ça suffisait quand même à nous scotcher, je dis nous avec ma bande de copains de l'époque, à nous scotcher des week-ends entiers, voilà, sur... Et en plus, là j'ouvre une petite parenthèse, c'est une époque, une petite parenthèse sur le téléchargement, les trucs illégaux, ça me fait vachement marrer quand on... J'entends maintenant les gens pousser, dire okay, oh, pas bien chargé, gratuit, tout ça. À l'époque, 95% des jeux qui circulaient, c'était des versions piratées. Hein, je veux dire, j'ai jamais acheté un jeu de ma vie. Enfin, voilà, ça se faisait pas. Et personne ne s'en souciait. Je
que dis, personne ça choquait n'appelle personne, la police, mais, merci.
Voilà. Donc, bref. Et sinon, quant à revenir sur les addictions que ça peut générer aujourd'hui, de manière générale, je suis d'ailleurs plutôt pour les addictions. Une bonne addiction, ça peut forger un caractère malgré tout. Et puis, ma foi, je veux dire, tant que les jeunes sont scotchés l'avant, ils ne brûlent pas des voitures dans la rue. Hein, donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Bon.
Alors, Christophe, toi, est-ce que tu es joueur ?
J'ai eu ma période adolescent, pas très bien dans ses baskets. Comment dire, j'étais pas le sportif de la classe, j'étais pas le meilleur élève de la classe, avec les filles c'était un peu calme plat, donc il y avait les jeux de rôle, les jeux vidéo, le besoin de se réfugier dans l'imaginaire en fait, parce qu'en plus il y avait les films, je bricolais des films en Super 8, et puis j'écrivais aussi, donc les jeux vidéo faisaient partie de cet ensemble de refuges. Vous qui êtes venu ici à un festival de science-fiction, j'imagine que vous êtes assez porté sur les genres et sur l'imaginaire. Voilà, j'imagine que certains d'entre nous sont plus ou moins en phase ou à l'aise avec la réalité et ont besoin de... Voilà, moi j'avais besoin de... C'est un refuge, alors peut-être un moyen de prolonger le côté ludique de l'enfance. Ouais, un côté un peu Peter Pan, je sais pas.
Alors, un certain nombre de psychothérapeutes disent qu'il y a même une contradiction entre l'idée d'addiction et l'idée de jeu. Parce que dans une addiction, on est soumis à quelque chose, on n'est pas acteur. Alors que par définition, dans un jeu, on agit. C'est-à-dire qu'on prend des décisions, c'est-à-dire qu'on fait des actes, c'est-à-dire qu'on est quand même aux commandes de la manette. Lionel, est-ce que tu ne trouves pas que justement cette idée d'addiction au virtuel, aux jeux vidéo de façon générale, est un peu contradictoire ?
Alors, je dirais que si on cherche, bon, c'est pas mon but, mais si on cherche à défendre la thèse de l'addiction, elle ne se trouve pas dans le fait que le joueur est acteur dans ce qu'il fait, mais c'est dans la décision de cesser de ce qu'il est en train de faire dans la vie réelle et d'aller se mettre devant l'ordinateur. Elle est peut-être là, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il y a un acte volontaire, mais est-ce qu'il est aussi volontaire que le type qui rentre d'une journée de boulot éreintante et abrutissante et qui leur premier réflexe c'est d'allumer TF1. S'il faut parler d'addiction, pour moi elle se situe dans cet acte-là, c'est-à-dire le fait d'allumer le truc et de se connecter qui parfois peut être un réflexe où le pointeur de la souris va comme par hasard sur Dark Age of Camelot ou World of Warcraft. Maintenant, je trouve quand même que l'idée d'addiction est forte. On a décrié il y a 15 ans, Mireille Dumas avait fait de grands articles sur l'addiction aux jeux de rôle, ce que c'était mal parce que ça menait à profaner des tombes. Le saut sémantique me paraissait, je vais le qualifier poliment d'audacieux. Je pense que pour moi c'est pas une addiction, c'est un réflexe de passionné. Le réflexe de passionné devient délétère à partir du moment où il permet peut-être de fuir quelque chose. Mais à ce moment-là, on parle de caractère peut-être un peu fragilisé ou de terrain favorable. Mais ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que ça n'est pas une question... Je parle de fuite, mais ça n'est pas une fuite dans un univers virtuel. C'est pas parce que c'est virtuel que ça va séduire quelqu'un. C'est pour moi l'erreur que font beaucoup les thérapeutes en disant le gamin fuit le monde réel parce que le monde réel est dur et tout, etc. C'est pas du tout le cas. C'est parce que le MMORPG est programmé pour vous faire passer du temps dedans. Donc il vous promet une récompense au bout d'un certain temps investi. Et il n'y a pas de risque véritable. C'est-à-dire que c'est un modèle très rassurant où on se dit, je vais passer 20 heures à tuer en boucle des rats et au bout de 20 heures de tuage de boucle, j'aurai des bottes épiques. C'est un mode de récompense qui n'existe évidemment pas dans le monde réel, parce que dans le monde réel, on peut parfois tuer 20 heures des rats en boucle et on a un salaire de misère au bout. Donc, pour moi, le phénomène est là. Et c'est beaucoup plus proche de l'addiction au jeu d'argent, par exemple, où le joueur va mettre des pièces pour essayer de se refaire. Et d'ailleurs, si je peux prendre juste un temps, il y a eu une loi. Le Québec a énormément de problèmes avec le jeu d'argent. Parce qu'il y a eu, je ne sais plus combien de temps c'était, mais il y a eu une législation qui est passée sur le jeu et qui avait une faille et qui en fait a permis la généralisation dans énormément d'établissements, les bars, etc., des jackpots électroniques. Donc vous mettez la pièce, vous appuyez sur le bouton, les roues tournent, etc., et vous avez gagné, vous n'avez pas gagné. Sauf que c'est prévu de manière à vous engager dans la chose pour que vous dépensiez de plus en plus en disant « Ah, j'ai gagné un peu ». Je vais réinvestir, je vais gagner davantage, et puis vous êtes dans le truc, et c'est comme ça que l'addiction au jeu d'argent, qui pour le coup est réel, se fait. Le MMORPG fonctionne un peu sur le même principe, sauf que vous n'y passez que du temps, et vous ne pouvez pas, sauf dans les cas très extrêmes, y risquer votre chemise. Donc si vraiment on doit parler d'addiction, vraiment, sauf que j'aime pas le terme, pour moi, sauf dans les cas très pathologiques, c'est une passion très chronophage, certes. Mais s'il faut faire un comparatif avec l'addiction, le virtuel est pour moi une route, fausse route totale. Il faut chercher du côté plus du jeu d'argent.
D'accord. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante dans ce que vous disiez tous, c'est que ceux qui ont joué beaucoup ou ceux qui jouent beaucoup actuellement disent souvent que c'est parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur basket, parce qu'il y avait un petit problème, parce qu'il y avait quelque chose. Or, par définition, on ne peut se perdre que si on sait où on est au départ. Donc, est-ce que c'est pas contradictoire de dire, alors je vais demander à Fabrice, par exemple, qui passe souvent dans les écoles, les collèges, etc., est-ce que c'est pas contradictoire de dire que les jeunes se perdent dans les jeux vidéo, alors que les jeunes, au départ, savent pas trop où ils sont ?
Moi, je pense pas qu'ils se perdent. Moi, je pense que le succès du jeu vidéo, en général, et pas seulement les jeux en ligne, c'est le pouvoir de l'image. Voilà, on a quand même dit beaucoup... du mal de la télé sur les dernières décennies, et là maintenant ça passe un peu aux jeux vidéo. Faites une expérience, vous mettez un bébé assis par terre, vous lui mettez des cubes en bois et vous allumez la télé, il va regarder la télé, quoi. Et c'est pas parce qu'il est mal dans sa peau, il sait pas où il est, c'est que juste l'image, c'est plus attrayant. S'il faut parler d'addiction, il y a des jeunes qui lisent beaucoup, mais par exemple la lecture, c'est un loisir duquel il est facile de s'abstraire, parce qu'il suffit qu'il y ait un bruit, que n'importe quoi, enfin, c'est facile d'arrêter de lire un livre. On voit bien qu'un gamin qui est en train de jouer aux jeux vidéo, ou pas seulement un gamin d'ailleurs, mais si je suis sur une partie de jeu de course, de tennis, de n'importe quoi, ou une quête pour sauver le monde, et que ma mère ou femme ou je sais pas qui me dit à table machin, non encore 5 minutes, bon ouais, enfin on connaît tous ça, voilà, c'est un bouquin, je vais pouvoir le refermer sans souci, le jeu je vais continuer. Alors en plus les jeux en ligne, je pense qu'il y a ce côté équipe, bon les jeux sont mieux aussi qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, ils sont plus graphiquement, ils sont beaucoup plus attrayants. Il y a plein de choses qui sont faites, comme le dit Lionel, pour que vous restiez dedans. Alors, c'est plus ou moins calculé. Et ce qui est marrant, c'est que ça induit de la part des joueurs tout un espèce d'arsenal d'arguments de défense par rapport à ça, que moi, j'avais aussi quand je pratiquais les jeux de rôle sur table, à savoir, oui, mais tu comprends, maman, ça développe les relations sociales et tout. Ouais, enfin, t'es gentil, tu peux sortir dehors aussi, discuter avec des gens, t'auras des relations sociales. Je me souviens qu'à un moment, on disait que le jeu vidéo, ça développait les réflexes, enfin, bon, n'importe quoi. Et même, je veux dire, pourquoi faire, hein, c'est-à-dire les réflexes de quand un troll arrive, tout de suite, tu sors ton épée. Donc dans la rue, ça va être
très utile dans la vie quotidienne.
Voilà, c'est... Ça me fait penser aussi au début du pendule de Foucault, dans lequel le narrateur, quand il est enfant, veut s'abonner à une revue, je sais plus, de BD ou je sais plus quoi, et essaye de convaincre son père en lui disant, mais tu sais, en fait, c'est le but de cette revue, c'est d'éduquer les jeunes et leur donner les armes pour l'avenir. Et le père lui dit, non, le but de cette revue, c'est de vendre un maximum d'exemplaires possible, quoi. Donc c'est un peu ça, le jeu vidéo, quand même. C'est avant tout une industrie, un marché qui génère des sommes absolument hallucinantes, qui maintenant sont supérieures à celles générées par le cinéma. Et mais voilà, moi je pense que le faut pas trop chercher d'explications. J'ai l'impression qu'on plaque un peu des schémas psy. Après, je veux dire, un gamin qui joue pendant 10 heures... On peut tous, plus ou moins, sauf Johan, qui est une sorte d'extraterrestre, qui est rétif. Il a une... un gène de défense par rapport à.
Johan, on sait pourquoi, je vais l'expliquer tout à l'heure.
Là, il y a peut-être une explication psy aussi, tu vas nous parler.
Oui, tout à fait.
Mais sinon, c'est juste que oui, moi personnellement, quand je dis je joue pas, c'est pas que j'ai pas envie. Je trouve ça super trippant. Les rares fois où j'ai essayé, je me suis dit, oh mon Dieu, au secours, partons de ce truc-là. Quoi. On peut aussi se dire ça quand on va dans un casino en disant, ah, c'est super marrant et tout. Oh, ben, j'ai tout perdu. Voilà. Mais voilà, c'est des choses qui sont faites pour être attrayantes et qui atteignent leur but. Et effectivement, et ben, tout le monde n'est pas armé de la même façon par rapport à ça. Et si en plus vous êtes mal. Dans votre peau, etc. Mais la définition que tu donnais de toi quand tu étais ado, je pense que c'est à peu près la définition que 99% des mecs donnent d'eux, quoi. Enfin, je veux dire, j'entends jamais des types de 15 ans dire ouais, moi avec les filles c'était trop génial quand j'avais 15 ans. Et donc, du coup, les jeux vidéo, j'en avais rien à foutre parce que j'étais trop occupé. Voilà, donc on était tous un peu. Et dans le jeu de rôle,
j'ai
pareil.
J'ai croisé quelques surfeurs californiens.
Oui, voilà, c'est... le surfeur joue très, peu très, aux jeux
très
vidéo.
Très agaçant. En
fait. Ouais. Tout à fait. C'est eux qui sont les extraterrestres en fait. Alors, je disais tout à l'heure, oui, c'est intéressant parce que vous dites ces mécanismes derrière le jeu vidéo, ces gens qui utilisent le jeu vidéo pour faire du fric, qui mettent en place des mécanismes d'addiction et tout. Or, que ce soit Christophe ou que ce soit Johan, vous avez écrit tous les deux un bouquin dans lequel le jeu vidéo sert de prétexte. Dans Fiery Hackers, par exemple, il y a un démon qui, comme par hasard, trouve domicile dans une entreprise de jeux vidéo, et dans Console à haut risque, le jeu vidéo est accusé d'avoir provoqué le problème, alors qu'en fait, il y a quelque chose de bien plus complexe derrière.
Oui, moi j'ai écrit Console à haut risque pour mon petit cousin, qui à l'époque devait avoir une quinzaine d'années, qui consommait beaucoup de jeux vidéo, mais qui avait une attitude un peu passive, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à savoir ce qu'il y avait derrière. Et donc j'ai voulu lui montrer que le jeu vidéo c'était aussi un métier, et j'ai rencontré quelqu'un de chez Cryo qui m'a fait rentrer dans les coulisses du jeu vidéo. Donc là, en plus de l'intrigue policière à la Agatha Christie, on a toutes les étapes du programmeur au designer, en passant par le packaging. Voilà, on apprend. Alors je sais pas si en tout cas ça a pas donné lieu à une vocation chez mon petit cousin, mais ça lui a au moins montré ce qu'il y avait, enfin quel processus il y avait pour arriver à.
Depuis, il fait jouer les autres et il demande de l'argent, c'est ça ?
Non, depuis, il a ouvert une boutique de figurines.
D'accord.
Et Cryo est mort, hein, merci.
En plus. Johan, pourquoi ton démon avait-il choisi une entreprise de jeux vidéo ?
Bah, soyons clairs, le jeu vidéo, c'est le mal. Bon, je ne vois pas d'autres explications. Non, plus que le jeu vidéo, donc, comme je disais tout à l'heure, on ne m'intéresse pas du tout. Dans ce bouquin, ce qui m'intéressait, c'était on était à l'époque où on parlait, c'était avant l'explosion de la bulle d'Internet, donc on parlait encore des startups, ces trucs fascinants. Et moi, je trouvais amusant, je disais, un démon qui arrive sur Terre aujourd'hui, mais un vrai salaud méchant, pervers, etc. Hein, pas le démon basique, quand même. Où est-ce qu'il va vraiment s'épanouir ? Bah oui, en dirigeant une start-up, parce que vu la mentalité de ces gens-là, enfin voilà, c'est jouissif. Donc, ce qui m'a permis d'écrire quelques scènes jouissives où il humilie ses subalternes, etc. Voilà, donc, tout simplement.
Ok. Alors, moi, il y a une chose qui m'amuse dans tout ce qu'on dit, c'est qu'on accuse presque toujours les adolescents, les jeunes adultes, etc., d'être des spécialistes de la zapette, et puis de ne pas savoir se concentrer 5 minutes sur quelque chose. Et dans le même temps, on les accuse de rester des heures dans un jeu vidéo et d'être complètement accrochés à des mondes complexes qui exigent quand même un peu de persévérance pour conquérir le boss. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement dans tous ces fantasmes dont on parlait, la réaction habituelle des adultes face aux jeunes, mais c'est quoi ces machins-là qui ne font pas comme nous ?
Moi, je pense, alors, par rapport à ce que tu dis... Le déficit d'attention, moi, je l'ai ressenti, par exemple, à partir de la première sur les cours de physique-chimie, tu vois, où au bout de 10 minutes, je me dis, mais de quoi parle cette femme ?
Bon. Non, mais ça, c'est parce que les profs sont nuls, c'est bien connu.
Mais non, justement, c'est parce que... Non, le problème,
je
c'est
suis
que...
prof.
Le jeu vidéo, il y a la touche pause, et quand on rate la quête, on peut la recommencer aussi. Et je pense que quand même, et encore une fois, moi, je trouve que c'est vraiment abusé de dire que ça peut développer quelques qualités intellectuelles que ce soit... Faut quand même pas délirer, c'est-à-dire la quête, même si effectivement il faut choper les objets magiques et c'est compliqué, etc. Bon, ça reste une manette de jeu où on dirige un personnage qui doit choper les objets magiques et tuer des monstres, etc. Donc là, alors il y a quelques jeux stratégiques un peu compliqués, mais finalement qui existaient déjà, enfin le support vidéo est plus pratique, mais des jeux comme les wargames, etc. se pratiquaient déjà sur table avant, ou des jeux de stratégie, pareil, jouer aux échecs. Le jeu vidéo, c'est un intérêt que si vous n'avez pas de partenaire, etc. Ou vous pouvez vous faire humilier par un chinois ou tout ça, donc ça c'est rigolo. Mais à part ça.
Mais est-ce que ce n'est pas encore plus jouissif justement de
se faire humilier par un chinois? Bah, le problème, c'est que maintenant, on commence à pu y arriver.
Enfin, ouais, sauf que les gens jouent au niveau où ils peuvent gagner.
Ah bah,
ils
oui, on sélectionne très faible et effectivement, on gagne à chaque fois. Si, si. Mais ma fille, elle fait ça, par exemple. Ouais, ouais. Mais, non, mais encore une fois, le jeu vidéo, ça ne requiert pas... Enfin, je sais que quelqu'un avait analysé le fonctionnement du cerveau de quelqu'un qui regarde la télé, par exemple, et s'était rendu compte qu'en gros, l'activité cérébrale a été inférieure à celle que... aurait un être humain qui ne fait rien. Je trouvais assez intéressant. C'est-à-dire, c'est moins que rien, quoi. Le jeu vidéo, je pense que quand même... Bon,
bonne définition de la télé. La télé, c'est moins que rien.
On va dire, voilà, on est quand même impliqué dans quelque chose. Maintenant, dire que ça va apprendre aux jeunes le sens des responsabilités, le truc d'équipe, etc. Oui, enfin, bon, j'allais dire, il peut aller chez les scouts aussi, c'est pas mieux, hein, mais c'est moins cher. Bon... Mais voilà, enfin, ça requiert pas non plus une intelligence particulière. Ça requiert surtout de la pratique. Et d'ailleurs, bon, enfin, je vous apprendrai rien en vous disant que si vous jouez maintenant à un jeu, si vous n'avez pas joué depuis un bon moment et que vous jouez à n'importe quel jeu de course, de foot, de n'importe quoi contre un gamin à partir de 5-6 ans, moi j'ai encore testé ça il y a 6 mois, bah, c'est l'humiliation assurée, quoi, parce que simplement. Ils ont plus de pratique et en plus leurs réflexes sont légèrement affûtés.
Lionel, sur ce rapport générationnel ?
Ben, y a effectivement une progression des jeux au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que aujourd'hui, même quelqu'un qui a pas joué pendant 3 ans, qui prend aujourd'hui un jeu en main, même d'un jeu qu'il va adorer, va sentir un saut. Il y a une difficulté, la difficulté augmente parce que les gens deviennent deviennent meilleurs. Et les mécanismes se complexifient. Donc, à partir du moment où on a de la pratique, ils peuvent pas nous en, hein, ça suffit quand même. Sur le rapport générationnel, c'est moi, ça me fait penser à une citation dont je vais jamais retrouver l'auteur, mais qui est pour moi extrêmement lucide, que j'ai vu passer sur Internet. Je crois que c'est sur SF Franco. Qui m'était resté en tête, c'est dans un monde où le risque zéro est la norme, toute pensée réaliste est une déviance monstrueuse. Et on vit dans une société surprotégée, surnormée, où à partir du moment où quelqu'un montre un tant soit peu d'enthousiasme ou de passion au point de s'investir énormément dans un truc, il a un problème. Mais ça peut être... parler de la lecture. Bon, la lecture, aujourd'hui, ça va, c'est bien. Ça a été... Et encore, ça dépend.
Ça dépend des milieux.
Ouais. La télé, il y a 15 ans, c'était une horreur parce que non, tu vas t'abrutir et tout. Les maquettes, le jeu de rôle et tout. À partir du moment où il y a le sport...
Le sport.
Tout à fait. À partir du moment où il y a un investissement qui est considéré comme étant un peu profond, qui est passionnel à quelque chose... Tout ce qui est, je trouve que dans cette société actuelle, tout ce qui est passionnel, à partir du moment où on est passionnel, c'est qu'on a un problème parce qu'on cherche à compenser quelque chose ou un truc comme ça.
Je pense que par rapport juste au... Enfin, le problème pour les ados, c'est que voilà, le loisir, quel qu'il soit, va pas dans le sens du développement scolaire de l'enfant, parce qu'a priori, il fait pas ses devoirs pendant ce temps-là et il rapporte pas d'argent, quoi. Mais, et ça, c'est vrai pour
il
tout.
Il en coûte, même.
Moi, quand j'ai dit à mes parents, ouais, mais en fait, j'écris des scénarios de jeux de rôle. Ah ouais, c'est d'accord, super. Mais c'est payé. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est contre-productif, entre guillemets, le jeu vidéo, mais si vous faites partie des quelques personnes qui arrivent à gagner de l'argent avec ça, je pense que les parents foutront la paix, quoi.
Tout à fait. Mais juste pour terminer là-dessus, donc en tout cas, cet raisonnement, cette façon de voir qui est actuelle, brouille complètement les cartes et la façon dont on pourrait véritablement, entre guillemets, traiter, s'occuper des gens qui, pour le coup, ont eu un véritable problème et ont trouvé un dérivatif dans le jeu vidéo, la maquette, n'importe quoi, parce que ça a révélé une tendance latente. Donc là, effectivement, le jeu vidéo, comme le jeu de rôle, la philatélie, la conchiliculture, que sais-je encore, n'est qu'un révélateur d'un malaise préexistant, mais avec toute cette espèce d'aseptisation, ça brouille complètement les cartes et c'est impossible d'avoir une réflexion intelligente parce qu'on a 3 psys américains qui décident de se faire un nom Jack Thompson, avocat, psychopathe s'il en est, donc s'il y a ses agents dans la salle, je sais que j'ai demain un procès en diffamation, qui a été, mais c'est bon, il a été radié du barreau, qui tient des discours invraisemblables, relayant la fusillade de je ne sais plus quelle université, je ne retrouve plus.
Columbine.
Non, pas Columbine, l'autre, celui de.
En Virginie, là.
Voilà, en Virginie, de Virginia Tech, à la pratique de Counter-Strike. Tant qu'on aura des rigolos comme ça et une vision surprotectrice, on ne pourra pas s'atteler à la toute petite frange qui a trouvé effectivement là-dedans un dérivatif. Et qui, pour moi, est. Mais ça pourrait être la philatélie, la pochiliculture, le jeu de rôle, n'importe quoi.
Oui, donc autant les cas pathologiques, on va dire, sont des problèmes individuels, autant on pourrait dire que le succès général des jeux de rôle signale aussi un problème sociétal.
Quand même pas.
Bah si, quand même. Des jeux de vidéo, pardon. Excusez-moi.
Je pense pas simplement. Ce qui est facile pour moi vraiment, ce qui est intéressant, enfin ce qui intéresse les gens dans le MMORPG, c'est la perspective assurée de la récompense en fonction d'un investissement temporel. Tout fonctionne là-dessus. Vraiment. À partir du moment où on a compris ça, on est capable de s'en détacher et de faire « Ouais, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de tout faire ce soir. Je peux faire ça sur 6 mois, c'est pas grave. » Mais il y a effectivement une course avec les autres membres de votre guilde qui, parce que eux n'ont pas une famille, une petite amie, un boulot, bah, parce qu'en gros, bah, ils aimeraient bien bosser. J'ai des copains de guilde, ils aimeraient bien bosser. Enfin bon, bah du coup, ça leur empêche pas de faire des candidatures, mais bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée? Je veux dire, une fois qu'on a fait le repassage, le ménage, envoyer 15 lettres de motivation qui reçoivent toutes des lettres négatives, à un moment, il faut s'occuper, quoi. Mais le problème, c'est quand après, des gens qui voient ces trucs-là, ils font oh, « il faut que je rattrape !» Ça, c'est le grand truc, c'est la course. Mais c'est parce qu'il y a ce mécanisme basé sur « si tu t'investis 20 heures, tu auras tes bottes épiques ». Et ça, ça n'a rien à voir avec le virtuel.
Johan, sur l'aspect social.
Oui, bonne question. L'aspect social, donc, rien à dire sur l'aspect social de ce genre de truc.
Sur la passion, la façon dont si la passion est
après,
reçue dans notre société.
Juste autre chose auquel je pensais en vous écoutant. C'est peut-être un petit peu basique, mais enfin, je crois que c'est un petit peu ça, puisque ça fonctionnait de mon temps, et je pense que malgré tout, le cerveau d'un jeune d'aujourd'hui est sensiblement le même le cerveau des ados qu'on a été. Il y a quand même une vérité toute bête que de dire. Souvent, la réalité, la vraie vie, c'est chiant, c'est morne, il n'y a pas de bande son, c'est pas très fun. À l'écran, ouais, ça bouge, il y a des jolies couleurs. Voilà, donc moi je comprends, cela dit, voilà, j'aime pas, mais je comprends tout à fait une immersion, même 20 heures ou que sais-je, ou plus, dans ce genre de monde. Ben ouais, parce que le plus souvent, je veux dire, pour avoir, grandi dans un trou de province où il se passait rien, où on s'emmerdait ferme, et c'est encore le cas, je pense, aujourd'hui, pareil, dans la plupart des trous de province, putain, la nature, la campagne, c'est chiant, faut quand même le dire. voilà. Donc ouais, je préfère quand même être devant un écran. Ouais,
sans compter que tous les éditeurs de jeux et tous les responsables de MMORPG vont appeler ça Second Life, dire c'est une seconde chance, c'est une seconde vie, etc.
Second Life, c'est pas un jeu.
Non. J'ai dit éditeur de jeux ou MMORPG. Christophe ?
Comment dresser la frontière entre la passion et la monomanie, à partir de quel moment ça devient autodestructeur, à partir de quel moment on se coupe vraiment de ses proches, c'est très difficile à définir. Donc oui, peut-être que les adultes sont surprotecteurs. Je sais pas, mes filles sont encore petites, donc je suis pas en première ligne par rapport à cet écueil-là. Mais
Moi, je peux dire que j'ai deux garçons qui ont 13 ans et 15 ans, qui jouent beaucoup, qui ont des très bons résultats scolaires. Ils ont une maman qui joue beaucoup et qui n'est pas non plus particulièrement débile dans son travail. Donc, je pense que c'est tout à fait compatible.
Mmh. Non, bah, chacun est vigilant, enfin, chacun fait comme il peut.
Oui, parce qu'à ce niveau-là, pareil, si on mesure la dangerosité d'une prétendue addiction au fait qu'à la limite, non, à minima, quand on empêche l'ado, enfin, ou l'individu, peu importe donc l'âge, donc de s'y adonner, au bout d'un temps, il serait mal à l'aise, malheureux, etc. Donc à la limite, moi, il faut vite supprimer la lecture, parce que 3 jours loin d'un bouquin, et je suis mal physiquement.
Bon. Donc je pense qu'il faut envisager une thérapie très vite, là. Voilà. Tout à fait. Alors, passons justement à l'aspect thérapie, cette fois, c'est-à-dire la face opposée, on va dire le versant clair de la force, non plus le versant obscur. Même si tu disais tout à l'heure qu'effectivement c'est un peu crétin de dire que les jeux vidéo vont développer les facultés intellectuelles, etc., etc., il n'empêche qu'il y a de plus en plus de psychothérapeutes qui utilisent le jeu vidéo dans des pratiques thérapeutiques. Je pense par exemple à quelqu'un comme Michael Stora à Pantin, hein, qui utilise beaucoup ça. Je pense à un certain nombre de personnes qui utilisent ça près des enfants autistes et qui semblent dire que le jeu vidéo permet une reprise de relation parce qu'on a un objet relationnel que deux personnes utilisent ensemble, mais d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet aspect ? Lionel, peut-être ? Allez.
C'est difficile parce que je suis, sur les qualités en soi, bon, sans parler du traitement déjà, bon, il y a des aspects sociaux qui pour moi sont véritables, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet effectivement à des gens qui sont isolés. Moi, j'ai vu des gens qui étaient vraiment très très mal à l'aise en société, avec des relations humaines, qui n'étaient pas autistes ni rien, mais qui vraiment avaient vraiment un malaise vraiment très profond et très réel, plus des ados, mais des gens de 16, 17, 18 ans, et qui avaient, grâce au MMORPG, pour la première fois des discussions d'adultes, avec des adultes qui les traitaient comme tels, et qui ont pu finalement nouer véritablement des relations très fortes, de grandes sœurs, grands frères, avec des gens avec qui ils avaient sympathisé, ce qui leur était totalement impossible dans la vie de tous les jours.
Mais est-ce que c'est pas le fait de tout réseau, ça, quel qu'il soit ?
C'est vrai, mais alors il y a le fait, c'est idiot, mais le premier contact qu'on a face à un joueur, c'est sa compétence dans le jeu. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais ? Et ces gens-là sont souvent des très bons joueurs. Ils se sont trouvés valorisés et pris avec un a priori favorable. Il n'y a pas, dans un réseau social classique, il n'y a pas cet écran-là, cet intermédiaire. Et j'ai vu ces gens-là qui ne sortaient jamais de chez eux, vraiment, ont accepté de venir en réunion de guilde, week-end à la campagne et tout, où on fait des barbecues, c'est des choses qui ne leur étaient totalement inconcevables, vraiment, et qui se sont fait violence, mais sont venus et sont ressortis de là enchantés parce que c'était ils avaient vraiment pas ça. Donc il y a effectivement le jeu donne un intermédiaire, un terrain neutre. Je suis pas très au courant des travaux véritablement thérapeutiques dont tu parlais qui sont faits, mais ça se voit très fréquemment. Des gens qui se trouvent en terrain neutre avec le jeu ont le confort de se dire je vais pas être jugé sur un terrain auquel je suis vraiment mal à l'aise, qui est la relation sociale. C'est des gens, tu les vois en face, ils ne desserrent pas les lèvres. Ils rigolent d'un ton gêné quand il y a une blague, qu'ils ont compris que la blague était drôle, mais ils n'osent même pas le faire. Et là, ça les sort de leur coquille. Et moi, je trouve que c'est vraiment un effet positif de ce genre de choses.
Alors Fabrice, à défaut de devenir intelligent, est-ce que tu penses que les jeux de rôle, les MMORPG, peuvent nous aider comme ça à trouver quelque chose, à nous trouver peut-être ?
Bah, c'est pareil, moi je suis pas très au courant des pratiques thérapeutiques. Ça me paraît un peu, pas un écran de fumée, mais disons que il y avait la même chose sur les jeux de rôle sur table, on disait aussi ça. C'est-à-dire que ça permettait à des gens un peu timides de s'exprimer, et c'était vrai, puisque on jouait effectivement avec des gens qui, dans la vraie vie, étaient des gens timorés, inhibés, incapables de parler, et qui s'animaient autour d'une table quand il s'agissait d'aller tuer un troll tout de suite. Bon. Mais après, je sais pas trop ce que ça donne sur le long terme, quoi. C'est-à-dire que l'avantage de ces, effectivement, la communauté du joueur, bon, les gens, ils jouent d'abord virtuellement, ils se retrouvent après, c'est super. Mais bon, ils se retrouvent quand même entre eux. Est-ce que après, on peut les envoyer dans un milieu qu'ils connaissent pas, par exemple ? Est-ce que là, ils peuvent faire montre d'une vraie amélioration de leur qualité relationnelle, sociale, etc. Ça, je connais pas assez pour juger.
Moi, je pense que ça peut arriver parce qu'il se trouve que je m'occupe aussi d'improvisation théâtrale où on voit des grands, vraiment des grands timides arriver et qui sont Bon, déjà, ils sont très courageux. Alors, le MMA, c'est-à-dire, allez, oser faire de l'impro, oser faire du théâtre, monter sur une scène, c'est déjà beaucoup plus, c'est déjà un pas infiniment plus grand que de se mettre derrière son écran et se dire, si je ne veux rien dire, je suis pas obligé de taper sur les canaux de discussion. Donc, c'est déjà autre chose. Mais et là, il y a véritablement on voit des timides.
Le problème que tu ne... Enfin, je veux dire, j'ai du mal à identifier le problème psy que tu ne pourrais pas régler par exemple, le théâtre et que tu pourrais régler par le jeu vidéo.
Apparemment, justement, certains problèmes d'autisme léger semblent pouvoir utiliser le jeu vidéo comme premier pas avant le théâtre. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme ce n'est pas autrui que tu as en face de toi, mais c'est une machine, c'est un écran, c'est pas un être incarné... Je parle évidemment d'autisme léger. Hein. Il est évident qu'un enfant autiste profond, le jeu vidéo lui apportera pas grand-chose. Mais un des grands spécialistes français de la question, qui est Sébastien Genevaux, qui a travaillé sur tous les aspects culturels, psychiatriques, psychologiques, etc. du jeu vidéo, compare de façon intéressante justement jeu de rôle, jeu vidéo, conte de fées aussi, avec cet aspect de rétablissement d'une situation qui initialement avait été... perturbé, et théâtre. Et il dit, en fait, apparemment, chez des enfants atteints d'autisme léger, premier stade, le jeu vidéo, je rentre dans un schéma actantiel de réalisation de moi, mais avec une machine, pas avec autrui. Deuxième phase, je suis face à autrui, mais je ne parle pas directement à autrui, je parle avec des personnages. Et troisième phase, je me mets à parler à autrui. Alors, je vais peut-être me tourner vers Christophe et vers Johan, qui parlent moins que les autres, les coquins. Christophe. Alors,
ma thérapie en tant que grand timide, c'est de venir faire des tables rondes.
Voilà. Et il parle au micro, comme vous constatez.
Voilà. Moi, j'étais au courant de certains thérapeutes qui essayaient de soigner l'autisme léger, effectivement, avec le théâtre et aussi avec les marionnettes.
Oui.
Mais pour les jeux vidéo, je n'étais pas au courant, mais j'imagine que ça procède un peu du...
C'est depuis 2002-2003 que les expérimentations sont faites, essentiellement à Pantin. C'est Pantin qui est en tête de tout ça.
Il y a un autre truc qui se fait quand même, qui n'a rien à voir, c'est le jeu vidéo pour les enfants qui ont des problèmes moteurs, notamment paraplégiques, etc. Et ça, ça paraît bête, mais c'est vrai que c'est assez. Il y a un truc de valorisation et ça marche assez bien. Je pense que ça doit bien marcher aussi pour les gens qui bossent sur les plateformes pétrolières ou des trucs comme ça.
Oui.
Commençait à en mettre par exemple dans les prisons, ce qui pourrait être une bonne idée pour calmer tout le monde, je pense que la plupart des ados essaieraient d'aller en prison, quoi, parce que finalement,
nourri, logé, jeu tout le temps. Johan.
Oui, moi je connais pas tous ces trucs-là, mais bon, finalement c'était plus simple. À l'époque, on soignait tout le monde par les électrochocs. Mais enfin, bon.
Électrochocs, médicaments, finalement c'est la bonne solution. Quoi. Bien, nous arrivons déjà à 2h20 pratiquement, donc on va peut-être voir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que. Oui, je vais descendre avec le micro.
Alors, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus pour continuer à rebondir sur le débat. Je fais partie d'un groupe de réflexion sur le jeu en général au sein des CMEA, le centre d'éducation aux méthodes, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et notamment, un de nos thèmes de réflexion qu'on a en ce moment, c'est sur les jeux vidéo et l'addiction aux jeux vidéo. Sachant qu'on a, dans notre réflexion, on a abordé le thème de la drogue et la définition de l'OMS sur la drogue, qui dit qu'il faut que ce soit une dépendance, une addiction et qu'il y ait une nocivité. Il faut qu'il y ait deux de ces trois termes, dépendance, c'est-à-dire l'envie d'y retourner, l'addiction, c'est-à-dire le besoin d'augmenter la dose, et la toxicité, c'est le fait qu'il y ait une nuisance, qu'il soit physique ou mental. Et effectivement, chez certains, il peut y avoir le jeu vidéo et le jeu de rôle massivement multijoueur en ligne peut être une drogue, mais pas nécessairement. Et autre chose qui est ressortie dans la réflexion, c'est qu'il y a besoin, on a tous besoin d'une fuite à un moment donné. C'est pas forcément un thème négatif, hein, mais on a la vie, elle n'est pas douce, elle n'est pas agréable. Pas tout le temps, surtout si on travaille beaucoup, si on fait du 10 heures par jour en usine. Et il y a un besoin de fuite. Et la fuite, ça peut être la télé, ça peut être une heure par jour de télé en rentrant à la maison, TF1 ou Arte. ça peut être lire, ça peut être se mettre autour d'un jeu de société avec les camarades une fois par semaine pendant 3 ou 4 heures. Ça peut être le jeu vidéo. Et à partir du moment où on a ces petites fuites, ces toutes petites micro-dépendances non nocives, c'est pas grave. Aimer le jeu vidéo, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'y passer trop de temps, d'abandonner la vie sociale. Et voilà, c'était ce qui était ressorti de nos réflexions. Et c'est des réflexions qui continuent encore et qui n'aboutiront jamais à une réflexion parfaite, à un résultat parfait et définitif. Mais voilà, il y a toujours des réflexions là-dessus à faire.
Merci pour votre intervention. Est-ce que finalement, avec ce qu'on vient d'entendre, l'addiction virtuelle, elle n'est pas largement autant dans la télé-réalité, par exemple, que dans les jeux vidéo ?
Certainement. Le virtuel, à partir du moment où ça peut être la lecture, le jeu de rôle, la télé-réalité, etc., tout ça relève du mécanisme qu'on qualifiait d'évasion. Mais pour beaucoup de choses, et en particulier dans le jeu vidéo, vraiment, le fait que ce soit virtuel est pour moi un faux problème.
Non, mais ce que je voulais dire avec la télé-réalité, c'est que dans le jeu vidéo, généralement, à moins d'avoir atteint un stade pathologique avancé, nous savons que nous jouons, alors que dans la télé-réalité, la plupart des gens qui regardent n'ont même pas conscience que ce n'est qu'un jeu.
Pas un jeu, il y a une jurisprudence vraiment, c'est considéré comme un travail hein, maintenant. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire, parce que la plupart
mais que c'est une mise en scène,
d'anciens disons. Joueurs, entre guillemets, ont demandé et obtenu, je ne sais plus quel juge il y a quelque temps, d'avoir requalifié leur participation au jeu comme travail avec l'établissement d'un contrat de travail. Donc maintenant, tous les producteurs commencent à flipper drôlement parce que s'aperçoivent qu'ils vont devoir rémunérer tous les centaines ou les milliers de candidats. Mais bon.
Mais ça, on a la même chose actuellement sur les MMORPG, puisque actuellement il y a des grandes discussions, par exemple aux États-Unis, sur le statut de l'argent virtuel dans les MMORPG.
À l'exemple, je crois que c'est le site Entropia Universe, qui est un site de comparable à Second Life, où ils ont donc le site a été fait sur la possibilité de convertir l'argent virtuel en argent réel. Sur un taux, je crois, de change fixe entre l'argent virtuel et le dollar, où effectivement il y a des gens qui ont commencé à opérer par le biais du virtuel, en tombant dedans volontairement, en faire leur travail, par payer leurs études, je crois, où les exemples étaient donnés de ce genre-là. Et donc là, c'était la dépendance était volontaire, puisque les gens avaient remplacé leur vie professionnelle et pas sociale par le virtuel. Donc après, l'influence que ça a eu sur la suite, je ne sais pas quoi. Et apparemment, c'est des gens qui ont donc passé 8 à 10 heures par jour, comme moi je vais à l'usine, ils ont été, eux, sur l'écran à tapoter, à faire de l'argent virtuel.
Et des types qui jouent avec de l'argent virtuel 10 heures par jour, ça existe déjà, ça s'appelle des traders en fait.
Et ça leur rapporte beaucoup, ça nous coûte cher.
Moi, personnellement, j'ai au moins 3 anciens élèves qui gagnent leur vie grâce à Second Life. Qui montent un personnage, qui construisent leur personnage et qui le revendent après sur eBay très cher et qui gagnent leur vie comme ça.
Donc, pour en revenir à l'addiction, addiction entre guillemets au MMO, est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi dans le fait qu'on veut toujours se connecter toujours plus pour retrouver des personnes avec qui on aime jouer, avec qui on aime partager du temps et avec qui on a des souvenirs en commun? Plus on joue, plus on se crée de souvenirs et plus on veut s'en faire, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a, a pas le fait que dans les jeux, dans les MMO, on peut prendre des responsabilités de diriger une équipe, de diriger certaines choses, ce qu'on n'a pas l'occasion de le faire quand on va travailler, par exemple travailler 10 heures à l'usine ou qu'on va faire son travail à la chaîne?
C'est très marrant de voir que certaines guildes reconstruisent de façon... Alors que c'est censé être un jeu, qu'on est censé s'amuser et tout, certaines guildes reconstituent ou reconstruisent de façon encore plus dure et plus despotique les pires entreprises transnationales de la vie réelle, avec une discipline militaire. Je ne sais pas si... Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect social, effectivement, qui pour moi est véritablement bénéfique, où effectivement, on a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie réelle. L'autre versant, c'est ce que satisfait pour moi le MMORPG, c'est ce que je disais tout à l'heure, le besoin d'accomplissement. Effectivement, devenir chef d'une grosse guilde qui remplit des objectifs, qui est la première de son serveur, parce qu'elle a tué tel ou tel boss avant tout le monde, ça satisfait le besoin très humain d'accomplissement. C'est vrai.
Personnellement, je suis la matriarche des Amazones sur la MMORPG que je fréquente.
Lequel ?
Elwen.org. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Oui ?
J'aurais voulu rajouter quelque chose par rapport aux jeux vidéo employés dans les thérapies. Il y avait dans un centre hospitalier, je ne sais plus lequel précisément, un jeu vidéo qui avait été développé pour permettre aux grands brûlés, durant les séances d'étirement de la peau, c'est parmi les douleurs, je crois, les plus vives qui peuvent être ressenties par les patients. Et ils avaient l'idée d'interfacer cette personne avec un jeu vidéo qui se basait sur la glace, le froid, des notions antagonistes au feu. Et dans ces séances, il y avait une nette amélioration du rapport à la douleur, puisque la personne investit un nouveau champ d'exploration, qui est celui du monde virtuel, qui peut se balader, qui interagit avec un monde en 3D, qui fait quelque chose. Finalement, il ressent toujours la douleur, mais sa conscience le gère différemment. Finalement, il parvient à s'abstraire de ça, grâce au passage dans le monde virtuel. Donc, où on constate une amélioration de l'état du patient. Il y a aussi dans les thérapies cognitivo-comportementales des travaux qui ont été faits pour confronter une personne à une simulation d'une de ses plus grandes peurs. Ça peut être les araignées, ça peut être la peur du vide, ça peut être l'interaction avec un public. J'avais vu une reconstitution de gens qui étaient à la place de nos amis là sur les fauteuils, et donc ils disposaient des individus qui les regardaient, qui étaient pas si bien faits que ça. Mais il s'avère que le cerveau, quand il est confronté à une simulation, il réagit de façon quasi similaire à une expérience réelle. Et donc, moi, je me pose un peu la question par rapport à ce qu'a dit Fabrice. Peut-être, effectivement, on ne peut pas fabriquer des petits génies avec les jeux vidéo, mais est-ce que dans certains cas, on ne peut pas favoriser, du fait que y a des résultats au niveau des traitements de certaines pathologies, est-ce qu'il n'y a pas aussi une expérience réelle qui est faite quand quelqu'un joue à un FPS et puis qu'il doit agir rapidement, buter des gens finalement, il y a quand même une rapidité qui est là, des réflexes qui sont sollicités. Alors, ça rend pas Lucky Luke, mais ça permet peut-être d'utiliser ces compétences de reconnaissance de l'espace, de rapidité d'exécution, de faire des choix, de décider des choses. Et si ça rend pas un surhomme, peut-être ça peut entretenir certaines.
C'est d'autant plus intéressant ce que tu dis par rapport notamment à l'apparition de les nouvelles pratiques vidéoludiques induites par la Wii notamment, où on commence à avoir de plus en plus d'investissement du champ physique et spatial par le joueur lui-même, qui se contente plus seulement d'appuyer sur des manettes, mais de bouger, de faire des mouvements. Et ça pose des problèmes assez marrants. Je veux dire, les gens qui font des régimes par console interposés alors qu'ils pourraient. Pourquoi pas, moi, à partir du moment où c'est un... Je pense qu'on peut, si on conçoit un peu le jeu vidéo comme un transfert vers autre chose, et là j'ai l'impression que dans ce qu'on a dit, on a souvent vu ça, c'est-à-dire que pour la vie sociale, les gens ils commencent par le jeu vidéo, puis ensuite ils vont sortir dans le vrai monde. Peut-être, je sais pas, ça peut générer des pratiques sportives ou des choses comme ça. Bon, ce que tu dis sur la douleur de façon générale, c'est intéressant parce que on sait que la douleur est il y a une composante émotionnelle qui est très
forte. Il y a pas que ça, hein. C'est vrai que le jeu de façon générale fait sécréter des endorphines et que l'endorphine va contrer la douleur. Ouais.
Mais si je suis hypochondriaque et que je suis complètement fixé sur le fait que j'ai très mal au ventre, je sais pas, et que je vais commencer à jouer pendant 5 heures et que je suis suffisamment abstrait dans le truc et je suis suffisamment dans le jeu, l'esprit, il y a vraiment un transfert, il part dans le jeu et probablement j'aurai plus mal, quoi. Ça, c'est. Ouais, il faut pas s'arrêter. Ouais, c'est. Ouais, je suis pas convaincu non plus, mais je pense qu'on n'est qu'aux prémices de. Enfin, je pense que ouais, il y a pas mal de questions à se poser là-dessus de façon générale, quoi.
C'est juste une précision. En fait, par rapport aux capacités que peuvent amener les jeux vidéo, ça a été déjà prouvé que pour une opération chirurgicale, hein, qui, avec des tout petits instruments qui passent par le biais d'un écran, on a réellement des capacités améliorées par les personnes qui jouent déjà aux jeux vidéo. Par le fait, en fait, qu'on passe par un écran, qu'on ne fasse pas directement avec les mains. On passe par des manettes et ensuite, ça passe par l'écran.
Mais là, c'est l'effet de la pratique aussi, je pense. Voilà. C'est vrai qu'avec les opérations à distance qu'on commence à faire maintenant, avec une personne qu'opère quelqu'un qui est à l'autre bout du monde par écran interposé et par bistouri électronique interposé, c'est vrai que les personnes qui pratiquent les jeux de vidéo doivent avoir une dextérité logiquement plus importante.
Ça va, si je me souviens bien, à 30% de rapidité en plus quand même pour l'opération. Donc pour une opération chirurgicale, c'est quand même pas mal, quoi.
Nous allons peut-être prendre une dernière question. Oui ? Alors deux dernières questions.
Oui, bonjour. Donc je voulais demander, préciser aussi que loin de ne pas stimuler les capacités intellectuelles, le jeu vidéo pouvait... au contraire, stimuler l'imagination des joueurs, même en dehors du jeu vidéo, parce qu'on voit notamment sur le net des gens qui écrivent des histoires à partir de scénarios de jeux vidéo. Donc d'un côté, ça quand même, c'est quand même une activité intellectuelle d'un côté. Il y a aussi pas mal de jeux vidéo qui sont vendus avec des éditeurs de jeux, donc des joueurs qui vont se mettre à créer eux-mêmes des scénarios, eux-mêmes des décors de jeux vidéo. Et je pense quand même que c'est assez... ça stimule la créativité des gens.
Je pense que, enfin là, on parle des jeux. On parle plus des jeux de rôle en général, je dirais, que des jeux vidéo, parce que, enfin, à mon avis, le jeu vidéo de foot, en termes d'imagination, il secrète rien du tout. Et en revanche, ces arguments qui sont déployés là pour soutenir le jeu vidéo, et nous, on les utilisait déjà pour le jeu de rôle sur table. Et je veux dire, et encore plus moi aujourd'hui, si je suis écrivain, je peux dire que c'est entre guillemets grâce au jeu de rôle sur table, parce que j'ai commencé à écrire des scénarios, à inventer des histoires, à me mouvoir en imagination dans des mondes imaginaires, etc. Donc c'est certainement vrai, mais c'est pas du tout exclusif aux jeux vidéo, je pense.
Et il ne me semble pas anodin de signaler que par exemple il y a l'armée américaine qui a publié un jeu vidéo gratuit qui s'appelle America's Army, ouais, quelque chose comme ça. Avec dans l'idée de repérer des futurs soldats doués.
Et de même que pour la formation de leurs pilotes de char, tout se fait par jeu vidéo. Vous avez vu les images donc des engagements avec les Américains, à quoi ça ressemble l'intérieur d'un... Oui. Les mecs qui sont à l'intérieur d'un char, ils ne voient pas le monde extérieur. Tout passe par écran interposé, ils jouent. Ils sont
dans... Et les simulateurs servent beaucoup à tout ça, c'est évident.
Il y a une, je crois, je ne sais pas où ça en est, mais il me semble qu'il y a une agence de l'ONU qui a lancé une procédure contre l'armée américaine, justement, parce que à travers America's Army, il y avait du recrutement militaire qui était fait pour des enfants non majeurs.
Disons
du bon, finalement, le jeu vidéo.
On parle de stimuler l'imagination, moi je dirais plutôt que c'est de la canaliser et de l'orienter.
Réaction ? Oui, dans le cas des États-Unis, c'est évident. Parce que, notamment, quand on voit la tête des ennemis, c'est évident de voir qui est ciblé, notamment.
Mais tous les jeux vidéo ont cette composante orientée. Plus ou moins.
Réaction, Lionel, peut-être ?
Si on part sur la violence aux États-Unis, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que le simple aspect du jeu vidéo et de la représentation... De la dite violence, je pense que le jeu vidéo n'est qu'une toute petite composante de la chose. Et,
elle en est un reflet en plus, je pense.
Voilà, c'est... Ça a tendance à concentrer et à intéresser
les développer.
Je pense que ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, je pense que ça a beaucoup plus à voir avec une certaine vision américaine de la violence, du marché des armes à feu, parce que si on part sur l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis ont des situations de crime et de leurs relations vis-à-vis des armes à feu qui sont extrêmement différentes, mais les États-Unis se trouvent tous les boucs émissaires qu'ils peuvent, notamment à travers la personne de Jack Thompson, Fox News, qui mettent les fusillades de Columbine et de Virginia Tech sur le dos de Grand Theft Auto, Counter-Strike, etc. Et étrangement, le Canada n'a pas le problème. Donc je pense que c'est, à mon avis, c'est un épiphénomène, en l'occurrence.
Bien, je pense que nous allons nous arrêter là, parce que nous avons débordé un petit peu. Je vous remercie de votre attention et bonne suite de festival.
Pour information, les auteurs vont dédicacer leurs livres non virtuels à l'étage.
Et vous pouvez leur faire des chèques virtuels, par contre.